19h01, vous écoutez Mathieu Béliard.
On n'est pas plus en retard que d'habitude, finalement. 19h01, l'information avec Marion Calais.
Et une nouvelle secousse dans l'affaire Benalla. Le Sénat décide de saisir la justice pour des soupçons de faux témoignages, non seulement de l'ancien chargé de mission de l'Élysée, mais aussi de trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. La majorité et l'exécutif s'indignent. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, dénonce une décision politique.
À un moment où le pays a besoin d'unité nationale, où il faut se retrousser les manches pour sortir le pays de la situation que nous connaissons depuis 4 mois, bien certains ont fait le choix de faire de la politique de bas niveau. Nous, on s'intéresse aux Français, aux problèmes des Français, à des solutions concrètes pour eux. Et je sais que sur les bancs du Sénat, il y a des sénateurs qui sont dans notre état d'esprit, et c'est tant mieux. Et puis il y en a quelques-uns qui veulent instrumentaliser une institution qui est importante. Elle représente les territoires de la République, c'est la Haute Assemblée. Eh bien, qu'elle remplisse pleinement son rôle.
Et pour marquer un peu plus le désaccord du gouvernement, le Premier ministre Édouard Philippe a décidé de boycotter cet après-midi la séance des questions au gouvernement au Sénat. Une riposte pas à la hauteur pour le sénateur socialiste Patrick Kanner.
Il s'agit là d'une première. Et ceux qui parlent de séparation des pouvoirs, là, ne respectent pas cette séparation. Le Premier ministre se doit d'être au banc, à la tête de ses ministres, pour répondre aux questions des sénateurs. Donc il y a une grande fébrilité. Si l'exécutif pense que cela va, entre guillemets, intimider le travail du Sénat, il se trompe. Mais je regrette qu'on en arrive là. Simplement, ayant fait notre boulot, permettez-moi l'expression, demandant la justice maintenant de s'en saisir, je regrette une telle hystérisation d'un sujet qui ne le mériterait pas, mais c'est finalement l'exécutif qui perd son sang-froid.
Le sénateur Patrick Kanner au micro Europe 1 d'Adrien Beck. Et loin de l'agitation politique hexagonale, Emmanuel Macron lui est à Bruxelles, sommet européen, avec un sujet principal, le Brexit. Londres demande un report, mais les 27 durcissent le ton à l'image du chef de l'État.
Il nous faut être clair vis-à-vis de nous-mêmes, de nos amis britanniques et de nos peuples. La première chose, l'accord de retrait, ça fait 2 ans que nous le négocions. Il ne peut pas être renégocié. La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal, nous le savons tous. Nous ne pouvons pas avoir une situation où, de manière durable, sans visibilité, sans projet, sans majorité politique, nous serions amenés à prolonger la situation actuelle. Et donc il faudrait un changement politique profond pour qu'il y ait autre chose qu'une prolongation technique.
Emmanuel Macron, à son arrivée au sommet européen de Bruxelles et outre-Manche, une pétition anti-Brexit sur le site du Parlement britannique a dépassé le 1 million de signatures en un jour. C'est une fracture de plus pour les zones rurales. La fracture numérique pointée aujourd'hui par l'UFC Que Choisir. L'association de consommateurs estime à près de 7 millions le nombre de Français privés d'un accès de qualité minimale à Internet, avec souvent des débits plus faibles à la campagne. Antoine Autier est le directeur adjoint des études à l'UFC Que Choisir.
Il y a des gros impacts. Dès que vous êtes deux à utiliser, bah on voit que ça rame. Là où ceux qui ont un bon débit peuvent télécharger la page web en 1 seconde, 2 secondes, bah vous devez attendre 8, 10 secondes. Donc on voit bien que dans l'expérience au quotidien, c'est quand même très dommageable, d'autant plus puisque c'est surtout présent dans les zones rurales. C'est-à-dire des zones qui sont déjà victimes de la fracture sanitaire. Bah on leur dit, on va développer la télémédecine, très bien, mais pour ça il faut avoir un bon débit. On voit le recul des services publics. On dit aux consommateurs, vous inquiétez pas, parce que d'ici 2022, vous aurez la fibre optique. Le problème, c'est que quand on regarde les déploiements actuels, on se rend compte que l'objectif ne sera pas atteint en 2022, mais plutôt à la fin des années 2020. Et donc, il y a vraiment des actions que l'État doit entreprendre pour permettre à tous les consommateurs, rapidement, d'avoir accès à un Internet acceptable.
Le directeur adjoint des études à l'UFC Que Choisir, joint pour Europe 1 par Sébastien Krebs. C'était une joueuse des années 30. Elle a remporté 2 fois Roland-Garros avant de rejoindre la Résistance pendant la guerre. Simone Mathieu donne aujourd'hui son nom au nouveau cours de Roland-Garros, un cours ouvert et semi-enterré, situé au cœur des Serres d'Auteuil. Inauguration aujourd'hui après 6 ans de batailles juridiques et de recours. Ce fut long, reconnaît le patron du tournoi, Guy Forget.
C'était un travail de longue haleine, avec beaucoup de doutes, de frustration aussi parfois, mais c'est un long combat et enfin ce rêve se réalise aujourd'hui avec ce cours entouré de serres qui est absolument somptueux. C'est vrai que jouer comme ça entouré de verdure sur un cours de cette capacité, on ne l'a jamais vu. Alors il y en a d'autres qui ont des cadres tout aussi remarquables. Je pense au roi de Monte-Carlo qui est au bord de la Méditerranée, un site extraordinaire. Mais là, je crois qu'avec ces serres qui entourent ce cours Simone Mathieu, ça, on verra ça nulle part ailleurs. Donc voilà, on est tous très très heureux, on est très fiers et on a hâte de voir les premiers coups de raquette sur ce cours Simone Mathieu.
Voilà, premier coup de raquette le 26 mai, le patron Irlande, Roland Garros, Guy Forget avec Corinne Boulou. Vous pouvez découvrir les premières images de ce cours sur Europe 1.fr, Europe 1 radio officielle du tournoi.
Merci beaucoup Marion Calais, 19h06.